Alors, je continue pour essayer d'entrer dans ce problème au plan critique de ce que représente le point de vue de la vérité. C'est-à-dire essayer de comprendre comment l'intelligence, et je prends l'intelligence dans son jugement affirmatif, implique une adhésion à ce qui est dit, à ce qui est affirmé, à ce qu'elle a découvert par rapport à la réalité. Quand l'intelligence dit « ceci est » et « je vous affirme que c'est bien comme cela ». Nous sommes capables de dire ça. « Ceci est » et « je vous affirme que c'est bien comme cela ». Je peux très bien dire aussi « ceci n'est pas » et « je vous affirme que ce n'est pas comme, que c'est bien comme je vous le dis ». C'est-à-dire que la négation est bien conforme à la réalité. Donc, il y a dans le jugement une capacité d'adhésion à la réalité. Et c'est cette capacité d'adhésion à la réalité qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'intelligence peut-elle adhérer au réel? Nous avions vu que dans l'opération élémentaire de l'appréhension, il y a assimilation. Et c'est important de bien comprendre ces deux aspects particuliers d'intelligence. L'intelligence n'est pas seulement celle qui assimile, qui devient la forme d'une autre réalité qu'elle. L'intelligence n'est pas seulement le lieu de toutes les formes, la fameuse formule d'Aristote, n'est-ce pas ? L'intelligence est le lieu de toutes les formes, c'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir cette ouverture à l'égard de nouvelles déterminations qui ne sont pas d'elle et qui proviennent de la réalité. Mais l'intelligence est aussi capable d'adhérer à la réalité, ou au contraire, de ne pas y adhérer, de faire l'un ou l'autre. Vous voyez, ceci, c'est important. Il y a une page de Sartre, je vous l'ai dit la dernière fois, dans Situation, et qui est particulièrement intéressante là-dessus, où Sartre dit « je ne peux pas accepter cette philosophie de l'assimilation ». Et on voit très bien ce qu'il veut dire là. Il part de toute une attitude scolastique de l'assimilation intentionnelle, pas seulement scolastique, mais aussi de Leibniz, aussi de toute une conséquence de philosophie où il y a l'assimilation comme en premier lieu. Et il dit « la connaissance, c'est se jeter vers. Connaître l'arbre, c'est l'embrasser ». Dans certains états où on se trouve, on peut connaître l'art en se cognant dessus et donc en embrassant. Tu vois, ça peut arriver, ça. Donc, connaître l'art, c'est se jeter dessus, jeter au-devant, l'embrasser. Connaître, c'est embrasser, aller au-devant. Vous voyez que c'est intéressant de voir que Sartre, quand il fait cette critique de la connaissance d'assimilation, oppose assimilation à embrasser. Se jeter sur. En réalité, l'intelligence a la double capacité à la fois d'assimiler et d'adhérer. Je dirais que pour pouvoir adhérer, il faut qu'elle assimile. Autrement, elle ne peut pas adhérer. Donc, il faut bien comprendre, je ne peux pas ramener la connaissance à l'assimilation. Ça, certains l'ont trop fait. Ça, c'est bien évident. C'est l'exaltation de l'appréhension. Quand on exalte trop l'appréhension, on aboutit à ne plus voir que la simulation. Jean de Saint-Thomas pousse très très fort le point de vue de l'appréhension et de la simulation, et il aboutit presque à dire « la connaissance, c'est devenir l'autre ». C'est même comme ça qu'il définit. C'est devenir l'autre. C'est vrai que le premier moment de la connaissance intellectuelle, c'est devenir l'autre. Et ça, je peux très bien le dire. Le premier moment de la connaissance intellectuelle, c'est devenir l'autre. Devenir l'autre intentionnellement. C'est de faire que l'autre vienne habiter en moi intentionnellement. Je l'assimile. Je le deviens. Vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement quand vous réfléchissez sur un sujet. Quand vous réfléchissez sur un problème, vous le portez en vous. C'est bien évident. c'est la possibilité qu'il y a dans la connaissance de porter en soi ce qu'on pense, ce à quoi on pense, le problème qu'on porte en soi. Mais ce n'est qu'un aspect de la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle a un autre aspect qui n'est plus seulement de devenir l'autre, mais de respecter l'autre. On peut très bien, quand on vient devenir uniquement l'autre, on peut très bien ne pas le respecter. Vous voyez, je t'aime tellement que je te mens. C'est comme ça que je t'assimile. Alors je deviens l'autre. Mais au fond, ce n'est pas le respecter tel qu'il est. Il y a les deux moments dans la vie de l'intelligence. Je deviens l'autre par l'assimilation et je respecte l'autre en adhérant à lui. Il faut bien comprendre que ces deux moments ne sont pas du tout en opposition et que ces deux moments portent sur la même réalité, mais dans deux aspects différents de la réalité. La réalité est complexe. Toutes les réalités que je connais sont complexes. Dans la réalité que je connais, il y a certaines déterminations que je peux assimiler. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, d'un terme classique, la forme, les déterminations, la quiddité de la réalité. Elle a des quand je regarde une personne, elle a des qualités que je peux très bien assimiler. La personne que je connais est intelligente. Je peux assimiler son intelligence. Oui, je connais bien son intelligence. Elle a une intelligence mathématique remarquable. Et quand j'ai dit ça, ça prouve que j'ai assimilé un tout petit peu sa connaissance mathématique. Parce que si je ne la connaissais pas du tout, je dirais tout simplement, on dit que c'est une intelligence mathématique remarquable, mais comme je ne suis absolument pas compétent dans ce domaine-là, je ne me suis pas frotté, n'est-ce pas? Et donc, je ne connais pas. Vous voyez, on fait la différence entre les deux. Si on est loyal et sincère, on reconnaît ce qu'on est capable d'assimiler et ce qu'on n'est pas capable d'assimiler. Quand je suis en aucune connaturalité à l'égard d'une certaine détermination, d'une certaine qualité, je ne peux pas dire que « Ah oui, cette personne, elle est remarquable dans telle ou telle... » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, il faut bien voir, j'assimile la réalité dans ses diverses déterminations. Diverses qualités. Réfléchissez tout simplement quand vous approchez d'une réalité que vous voulez la connaître. Vous regardez ce que vous pouvez connaître de cette réalité. Un animal que vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce que vous regardez? Sa couleur, sa forme, ses yeux, sa tête, sa queue. Vous regardez tout ça. Et vous essayez de décrire cela. Cette description implique une certaine assimilation de ces diverses qualités. Et puis, il y a quelque chose dans la réalité que vous ne pouvez pas assimiler. C'est cette réalité en tant qu'elle existe en dehors de vous. Il y a quelque chose qui est autre chose que vous et que vous n'arriverez jamais à assimiler vraiment. Cette réalité existe et elle existe en elle-même ou elle existe en dépendance d'autre chose que vous, mais elle existe. Elle existe pour elle. Si c'est un vivant, il a une certaine autonomie. Et parce qu'il a une certaine autonomie, il y a quelque chose dans cette réalité qui vous échappe. Son existence actuelle, ce qu'il est. Et il n'y a pas quelquefois que l'existence, il y a autre chose aussi. Il y a certains aspects que vous ne connaissez pas, que vous n'arrivez pas à assimiler. Donc l'intelligence a un double mouvement par rapport à la réalité qu'elle cherche de connaître. Elle s'assimile cette réalité et elle se porte vers en adhérant. Là, je crois qu'on peut tous comprendre ces deux aspects, assimilation, donc l'appréhension et le jugement qui adhèrent. Alors, expliquons cette adhésion. J'ai déjà commencé la dernière fois. Je reprends étant donné la complexité que ça représente. Quand j'adhère à cette réalité, je reconnais que ce que je connais de cette réalité est conforme à cette réalité. C'est ça qui est tout à fait particulier. Ce n'est pas simple, l'adhésion. L'assimilation est simple, mais l'adhésion n'est pas simple du tout. Je reconnais, je crois qu'on peut dire cela, je reconnais que ce que je connais de cette réalité est conforme à cette réalité. Vous voyez, je me dédouble. Je regarde ce que je connais et je regarde la réalité. Alors, ça prouve que je suis capable de dépasser ce que j'ai assimilé de cette réalité, que je suis capable d'atteindre cette réalité sous un autre aspect que ce que je connais de cette réalité. C'est très curieux, ça. Et ça, c'est important à saisir ça, parce que je crois que c'est là où nous saisissons ce que représente vraiment le point de vue du jugement. Et vous faites ça couramment, vous n'avez qu'à regarder dans la vie, vous faites ça couramment. Pas quand vous lisez et que vous êtes devant une œuvre, hein, et que vous êtes dans la lecture, parce qu'à ce moment-là, la lecture vous fait croire que vous assimilez parfaitement le texte que vous avez lu. Mais quelqu'un de plus intelligent que vous lira derrière vous, il dira, espèce d'imbécile, tu n'as rien compris. Résume un peu ce que tu as compris. Alors vous résumerez. Et l'autre dira, mais non, tu n'as pas vu, tu n'as pas su lire, tu n'as pas compris. Vous voyez, au fond, c'est très vrai, ça durait ça. On en est tous là. C'est le côté qui est si terrible des comptes rendus. Quelqu'un a mis 15 ans pour écrire un livre. Et vous voyez un être d'une intelligence géniale qui le lit en 3 heures et qui en fait le compte rendu. Et tout le monde écoute ce compte rendu. C'est assez effrayant. C'est la même chose pour les comptes rendus artistiques. Quelqu'un s'est exercé pendant des années et des années. Il y a critique d'art, il écoute. Il faut voir encore comment ils écoutent. Parce que quand ils sont plusieurs, ils écoutent en bavardant, en échangeant. Donc ils n'écoutent pas. Et ils en font un compte rendu. C'est assez affolant. Vous voyez, c'est ça qu'il faut saisir, qu'il y a dans la réalité quelque chose qui vous dépasse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de compte-rendu. Dans certains domaines où l'on a beaucoup travaillé, on peut dire qu'on a travaillé aussi depuis des années et des années, donc on comprend. Vous voyez, le professeur qui doit faire un compte-rendu d'un doctorat de ses étudiants. Voilà. L'étudiant a mis quand même plusieurs années, au moins 2 ans ou 3 ans, pour faire son doctorat. Quelquefois plus, n'est-ce pas? Et puis le professeur, lui, si c'est une matière qu'il n'a pas beaucoup étudiée, mais est-ce qu'il met 15 jours, un mois, c'est le grand maximum. Parce que s'il a plusieurs thèses, vous voyez, il ne peut pas faire beaucoup plus. Hein. Et il devra juger. Il devra porter un jugement. Il devra porter un jugement sur ce qu'on représente cette œuvre qui est faite. S'il est très compétent dans cette matière, c'est-à-dire s'il a beaucoup travaillé, il verra tout de suite la petite faille. Tout de suite. Il dira, ah, il n'a pas compris là. Je l'attendais là au tournant. J'attendais, c'est ce qu'on doit faire. Mais s'il ne connaît pas et que l'autre a travaillé plus, il faut quand même bien qu'il soit professeur. Et donc qu'il soit celui qui critique. Parce que si vous dites, ah, je suis incompétent pour critiquer, je trouve que cette œuvre est... Il ne dira jamais ça. Il n'a jamais vu ça dans un compte-rendu. D'un professeur dit, je suis incompétent dans ce domaine-là, je demande à un autre professeur beaucoup plus compétent de moi que de savoir. De temps en temps, ils le font. Alors, on demande un expert. Je m'en remets un expert. Ça, c'est très bien. C'est normal de s'en remettre à un expert, parce qu'on ne peut pas que tout connaître. Et c'est très curieux de voir ça, parce que je crois que c'est là où on saisit ce que c'est que le jugement. Parce qu'on critique. Dans une critique, on juge. On adhère, puisqu'on dit... Cette thèse peut, elle est acceptable. Je demande à la faculté de l'accepter. Et je mets même une note. Et donc, en mettant une note, vous la jaugez. C'est extraordinaire. Le culot monstre. Hein? Il faut bien que ça se fasse, quand même. Hein? Il faut bien que ça se fasse. C'est pas pour critiquer ce que je fais ça, mais simplement constater. Faisons la philosophie du professeur qui juge une thèse, pour comprendre ce que c'est que le jugement. Comprendre ce que c'est que le jugement. Comprendre que dans la réalité qui est jugée, il y a toujours plus que le jugement. Bienheureux examiné. N'est-ce pas? Qui pourra toujours dire que la thèse qu'il a faite vaut beaucoup plus que le jugement qui a été porté dessus. S'il est réaliste, il pourra toujours dire ça. Parce que moi, j'ai travaillé des années et des années là-dessus. Je sais ce que ça vaut. Et professeur très intelligent, mais qui ne connaît pas la matière, non, c'est pas lui. Et quand il s'agit d'une réalité, qui est une réalité physique, quand il s'agit d'une personne, c'est encore beaucoup plus. Combien de temps il a fallu pour qu'elle existe et qu'elle soit ce qu'elle est. C'est vrai, ça, c'est une chose extraordinaire, comprendre comment la réalité dépasse la connaissance que j'ai de cette réalité. Je crois ça capital au point de vue philosophie réaliste. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez comprendre ce que c'est que la philosophie réaliste. C'est de respecter que la réalité est plus que la connaissance que vous en avez. Tant que vous n'avez pas découvert ça, vous restez, je ne dis pas dans quelle forme de connaissance, mais vous restez incapable de pouvoir reconnaître que la réalité est plus. Or, ce n'est qu'au moment où vous reconnaissez que la réalité est plus que vous pouvez vraiment adhérer à la réalité. On adhère à quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Comment on n'adhère pas? Quand vous adhérez à quelque chose qui s'appuie sur vous, vous voyez ce que ça fait. On adhère vraiment qu'à une réalité qui est première, qui est plus que nous, sur laquelle on s'appuie. Notre jugement s'appuie sur la réalité. Et c'est pour ça qu'on peut dire adhésion. On adhère à la réalité. Et cette adhésion à la réalité montre que cette réalité a quelque chose qui dépasse la connaissance que j'en ai. Mais alors vous voyez le problème, c'est là la difficulté du problème. Comment se fait-il que mon intelligence est capable d'être autocritique d'elle-même? Parce que quand je dis que la réalité mesure ce que je connais de la réalité, je suis autocritique de moi-même. Je comprends que mon intelligence est capable de relativiser ce qu'elle connaît. C'est bien ça, être autocritique de soi-même. C'est à partir de là qu'il y a un peu d'humour intellectuel. Autrement, on est dans un sérieux effrayant. C'est qu'à partir de là, il y a un peu d'humour. Oui, je connais ça, c'est sûr, mais la réalité est bien plus riche. Il y a quelque chose de... Et c'est vrai, il faut toujours avoir un peu d'humour. Tous les professeurs doivent avoir un peu d'humour par rapport aux thèses des étudiants et reconnaître qu'il y a peut-être un génie qui dépassera et qui dans 20 ans, on dira, vous voyez, il a eu cette note-là à l'examen. Parce que le professeur ne pouvait pas le connaître, il était un génie. Alors, il vaut mieux, autant que possible, ne pas se mettre dans cette situation-là. Parce que c'est donc éviter cette situation et reconnaître qu'il peut y avoir dans une thèse d'étudiant quelque chose qui est plus intelligent que ce qu'on a dit. Quelque chose de plus intelligent que ce qu'on a connu, que ce qu'on a saisi. Alors, comment ça se fait, hein? Je pose la question critique. Ça, c'est très important parce que pour moi, c'est le moment capital au point de vue de la vie d'intelligence. C'est très important l'appréhension, on l'a vu, c'est la naissance du concept. Mais il y a quelque chose d'encore beaucoup plus important. C'est le réalisme de la connaissance, où la connaissance est capable par elle-même de faire cette autocritique. Sans se détruire, hein, une autocritique positive, une véritable autocritique. C'est-à-dire, au fond, avoir la lucidité de ce que l'intelligence peut saisir et de ce que l'intelligence ne peut pas saisir. Alors vous allez me dire, pour faire ça, elle doit se dépasser. Attention, non. L'intelligence est capable, dans le jugement, d'atteindre ce qui est. Vous voyez, le jugement d'existence. C'est parce que l'intelligence est ordonnée à ce qui est. Donc, à l'être existant, de telle ou telle manière. Ce qui est, c'est cette personne, c'est cet animal qui existe, c'est moi-même. Personne et animal, n'est-ce pas? Je suis les deux. Donc c'est moi-même qui existe. Et je reconnais que je connais cette réalité, mais que dans le jugement d'existence, j'atteste que cette réalité existe. Et que cet exister de la réalité, dans ce qu'il a de plus profond, est au-delà de ce que je peux en saisir. C'est ça le propre du jugement d'existence. Vous voyez, c'est le dépassement du ceci. Ceci est. Et c'est de reconnaître qu'il y a dans l'affirmation propre de l'exister, quelque chose que l'intelligence peut atteindre, mais qui est au-delà du contenu qu'elle a de cette réalité. Autrement dit, c'est l'intelligence dans son appétit du réel existant, de la réalité existante, c'est l'intelligence dans son appétit du réel qui peut, à partir de ce moment-là, se critiquer. C'est-à-dire réfléchir sur elle-même, c'est à partir du jugement qu'on a conscience du contenu intellectuel qu'on saisit. C'est l'intelligence, à partir de ce moment-là, qui peut se critiquer elle-même, c'est-à-dire comprendre que ce qu'elle a saisi, ce qu'elle a assimilé de la réalité, n'est qu'un aspect de la réalité. Ça peut aller assez loin. Elle a saisi sa quiddité, c'est-à-dire ce qu'est cette réalité, mais qu'elle n'a pas épuisé cette réalité en tant qu'elle existe. C'est parce que l'intelligence est ordonnée à ce qui est, du point de vue de l'être, que l'intelligence peut faire la critique de ce qu'elle est capable d'assimiler. Et c'est là où vous comprenez comment je puis dire l'intelligence est ordonnée à l'être et non pas l'être à l'intelligence. Alors, cette petite formule sur laquelle il faut réfléchir longuement, mais c'est ce moment-là qu'il faut saisir. Penser, intelliger, peu importe, cogiter, peu importe ce que vous dites, hein, penser ce qui est, du point de vue de l'être, comme être. Alors, est-ce que la pensée est première ou est-ce que ce qui est premier? Si ce qui est premier, je reconnais que mon intelligence, quand elle pense, est ordonné à ce qui est, et ce qui est devient la mesure. Et le penser est relatif à cette mesure, c'est-à-dire que le penser provient de cette réalité et qu'elle est capable de se mesurer à cette réalité pour voir si ce qu'elle pense est conforme à cette réalité. Alors vous avez donc ce qui est premier, et la pensée qui est seconde. Je dis ça en grec pour que vous le compreniez mieux. Le to eidan est le point de vue du to noen. C'est pour rappeler. Le to eidan et le to noen. La relation qui existe entre les deux. Au contraire, si je n'arrive pas à saisir cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, je considère que la pensée, le taux Noël, mesure ce qui est second et qui est relatif. Et à partir de ce moment-là, nécessairement, la signification de la réalité n'est plus dans la réalité, mais elle est dans le Noël. Et à partir de ce moment-là, la connaissance n'implique plus uniquement assimilation et adhésion. Je veux dire, à partir de ce moment-là, quand ce qui est second, la connaissance ne peut plus être qu'une assimilation. Parce que, de fait, je n'atteins que ce qui est au-dedans de moi-même. Je ne peux plus me mesurer à la réalité. Mais je la mesure à ma connaissance. Et en réalité, la réalité échappe. Je ne la connais pas. Le nous-mêmes échappe. Le nous-mêmes est inconnaissable. Le nous-mêmes, la réalité dans sa profondeur, donc le to-einam, la réalité dans sa profondeur, échappe. Je ne connais que des formes. Mais je n'atteins pas l'être. Oui, c'est vraiment le problème de la capacité de l'intelligence d'atteindre l'être au-delà des formes, au-delà des qualités.
au-delà des déterminations particulières,
qui me permet tout de suite de voir ces deux attitudes différentes. Le dépassement de l'assimilation dans un jugement qui permet de reconnaître qu'il existe dans cette réalité quelque chose que je n'assimile pas, quelque chose qui est au-delà de ce que j'ai connu. Autrement dit, je peux connaître indéfiniment cette réalité, je peux y revenir indéfiniment. La réalité a une intelligibilité que je n'arrivais jamais à saisir pleinement et totalement. La réalité possède au-dedans d'elle-même quelque chose infiniment plus riche que ce que je connais de la réalité. Je pourrais toujours y revenir. Ceci, c'est surtout vrai pour la personne humaine. Mais c'est déjà vrai pour le vivant. Et c'est vrai aussi, d'une certaine manière, parce que plus les réalités sont élevées dans l'ordre de l'être, vous comprenez, plus elles possèdent une intelligence profonde. Et c'est déjà vrai, d'une certaine manière, pour la matière. Je ne pourrais jamais dire, j'ai épuisé totalement la connaissance. Je crois qu'on ne peut jamais le dire. On peut dire, étant donné les instruments que j'ai maintenant, étant donné les conditions d'expérience que j'ai maintenant, je crois avoir épuisé le sujet. Je ne peux pas dire plus. Parce que je pourrais peut-être avoir des instruments qui me permettraient d'explorer autre chose. La réalité possède en elle-même une intelligibilité plus profonde. Ça, je peux l'affirmer métaphysiquement. Possède une réalité plus profonde que ce que je connais de cette réalité. Alors, vous voyez, ça, c'est très important, ce moment-là, au point de vue critique. C'est, je crois, à ce moment-là seulement que j'ai le droit de reconnaître ce qu'est une connaissance réaliste. Pas avant. Ce n'est pas du tout le point de vue de la connaissance conceptuelle ou pas conceptuelle, ça n'a rien à voir. C'est dans le jugement et dans la conscience que j'ai dans le jugement, et la conscience que j'ai d'adhérer à la réalité ou de ne pas y adhérer, que j'ai conscience de ce que représente la connaissance réaliste. Ça, c'est un point important. Précisons encore, cette connaissance que je fais dans cette lucidité que j'ai d'adhérer à la réalité ou de ne pas y adhérer, je vois que ce que je connais de la réalité est relatif à la réalité. Donc, je relativise le contenu intelligible ou intelligé de la réalité. Je le relativise. Et pour le relativiser, il faut le dépasser. Il y a donc un toucher à l'égard de la réalité qui n'est pas conceptuel. Ça qui est aussi très important à souligner. Le tingein d'Aristote. Aristote dit tingein, le toucher. Il y a dans l'intelligence un toucher à l'égard de la réalité, ce tingein qui n'est pas conceptuel. Mais qui présuppose la connaissance conceptuelle. Ce n'est pas du pré-conceptuel, c'est du super-conceptuel. Ce n'est pas du tout du pré. Le pré-conceptuel veut dire justement qu'il y aurait une connaissance directe, immédiate, qui ne serait pas conceptuelle. Non, c'est le dépassement à l'égard du conceptuel, mais qui présuppose la connaissance conceptuelle, qui me permet de toucher la réalité et de reconnaître que cette réalité est une mesure à laquelle je me conforme. Parce que s'il n'y avait pas ce toucher, il n'y aurait pas affirmation d'une mesure. La mesure est quand même quelque chose qui me transcende. Vous voyez, c'est l'autre. C'est l'autre qui me transcende. Et donc, elle me transcende parce qu'il y a quelque chose dans cette mesure que je ne connais pas. Et pourtant, je la touche. Je ne la connais pas conceptuellement, mais je la touche intellectuellement, en tant qu'elle est autre. Alors, comprenons que ce dépassement du point de vue conceptuel me permet de comprendre que dans le jugement, il y a un nouveau concept qu'on appelle l'énonciation. Ce n'est plus le concept simple de l'appréhension, mais c'est un nouveau concept, l'énonciation. Ceci est. C'est ce que je dis, hein. Alors là, vous trouvez le legein. C'est ce que vous dites. C'est ce que nous pouvons dire quand je dis « ceci est ». Quand je dis « ceci est », j'énonce ce que je connais et je montre, j'allais presque dire du doigt, je montre du doigt la réalité que je touche. Ça qui est extraordinaire. Il y a les deux. Quand je dis « ceci », je m'enferme dans ce que je connais. Et quand je dis « ceci est », j'indique du bout du doigt, c'est pour ça que c'est toujours le toucher, j'indique ce que l'intelligence touche, atteint, au-delà du concept. Et vous voyez, c'est justement « est », donc le verbe « être », l'exister, qui est touché, qui est atteint. Et c'est le « ceci » d'une certaine manière, comprenons bien, parce qu'on ne peut pas les séparer. Alors, ce que je peux dire ici, on pourrait le critiquer, parce que ce n'est pas uniquement le « ceci ». C'est plus que le « ceci ». Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Dans l'énonciation, il y a plus que le « ceci ». Quand je dis « ceci est », j'exprime bien ce que je connais, et le « ceci est » exprimé par l'énonciation montre comment j'atteins quelque chose qui est au-delà de l'énonciation, donc au-delà du concept que j'ai. Alors, l'énonciation. L'énonciation implique l'énonciation du « ceci est ». Implique le nom et le verbe. Hein, ça, c'est bien classique. C'est intéressant, du reste. C'est très intéressant à voir. Implique le nom et le verbe. Toute énonciation, à la différence du concept premier de l'appréhension, le concept premier de l'appréhension, nous l'avions vu, c'est ce qui est capable d'être attribué. Alors, je ne dis pas le nom, je ne dis pas le verbe. Je dis ce qui est capable d'être attribué. Ce qui est capable d'être attribué, c'est cela qui est saisi dans l'appréhension. Et qui est le concept saisi dans l'appréhension. Nous avions vu que ce concept impliquait un mode universel, capable d'être attribué. C'est lorsque vous saisissez telle ou telle forme. Telle ou telle détermination, lorsque vous saisissez les diverses catégories, les diverses formes, ce qui est capable d'être attribué, champ, animal, homme, intelligent, cœur, tout ce que vous déterminez, toutes les diverses catégories, les 10 catégories d'Aristote. C'est là ce que le concept contenu dans l'appréhension. Tandis qu'au contraire, dans l'énonciation, il y a tout de suite quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a le nom et le verbe. Et les deux sont contenus dans l'énonciation. C'est pour ça que je dis l'énonciation, ce n'est pas seulement ceci. C'est ceci est. L'énonciation est donc complexe, l'énonciation du jugement. Elle est complexe. Et elle implique, comme toujours, quand il s'agit d'une certaine complexité, elle implique deux parties. Deux parties qui s'unissent réciproquement. L'une reçoit l'autre, le nom reçoit le verbe, et le verbe détermine ou permet d'exercer l'autre. Et quand vous essayez de réfléchir un instant sur ce que représente le rapport mutuel du « ceci est ». Au-delà de l'aspect de la grammaire, hein, parce que vous aurez simplement le nom et le sujet, c'est très facile. Le nom et le verbe, c'est très facile à comprendre, n'est-ce pas ? Mais vous essayez de comprendre un tout petit peu plus que ce point de vue uniquement de ce que la grammaire peut nous dire. Vous voyez que le « ceci », oui, il est le support de « est », et d'une certaine manière, ceci s'actue dans elle. Donc c'est réciproque. Vous ne pouvez pas dire l'un est en puissance, l'autre est en acte. Non. Vous pouvez dire que l'un est en puissance, c'est très vrai, par rapport
à et, ceci est en puissance, il reçoit et, il reçoit le verbe, et le verbe actue le sujet, le verbe actue le nom, mais le nom lui-même, il est actué, le verbe est reçu dans le sujet, et le verbe actue le sujet. C'est ça qu'il faut dire. Le verbe est reçu dans le sujet, et le verbe actue le sujet. Donc il y a une relation réciproque. Ce n'est pas une relation dans un seul sens. Ce qui montre combien il y a une unité profonde dans cette complexité nom et verbe. Il y a une unité sui generis. Une unité tout à fait particulière. Au sein de la composition, il y a une unité. Il y a une unité qui exprime quelque chose de nouveau. Qui exprime quelque chose de nouveau. Ce n'est pas simplement de l'ordre de la signification, c'est de l'ordre de quelque chose qui est au-delà de la signification. C'est pour ça que je dis exprime. C'est difficile à dire. Hein. Il y a quelque chose qui est exprimé, qui est plus que la signification. La signification regarde ceci, et il y a l'au-delà de la signification qui est exprimé. Eh bien, vous avez donc là l'énonciation que l'intelligence forme au-dedans d'elle-même, et c'est cette énonciation qui est relativisée par la réalité elle-même, par le tout et là, par la réalité elle-même. La réalité mesure cette énonciation. L'intelligence est capable d'atteindre cette réalité au-delà de l'énonciation qui est son verbe. C'est pour ça qu'elle dépasse l'aspect conceptuel pour atteindre le réel et reconnaître qu'en effet, le moyen par lequel elle atteint le réel, c'est l'énonciation. Elle n'est pas enfermée dans l'énonciation, puisqu'elle peut la dépasser. Si elle ne dépassait pas l'énonciation, elle serait toujours enfermée dans l'énonciation. Et donc, elle ne dépasserait pas le concept. Mais elle est capable de dépasser le concept puisque elle met la relativisation de ce qu'elle énonce par rapport à la réalité. Et elle peut dire que cette réalité est conforme ou n'est pas conforme à ce qui existe. Et donc est relatif à ce qui existe ou n'est pas relatif à ce qui existe. Vous voyez, là, c'est là où nous voyons comment l'intelligence n'est pas limité au concept. C'est là où on voit combien l'intelligence n'est pas adéquate au concept. L'intelligence a une vitalité qui dépasse le concept. Mais le concept est le moyen par lequel l'intelligence saisit la réalité. Elle ne peut pas saisir la réalité autrement qu'en la portant au-dedans d'elle-même. Mais en portant cette réalité au-dedans d'elle-même, en la concevant, elle sait que ce qu'elle conçoit est moindre que la réalité. C'est donc là où elle comprend, dans une certaine lucidité intellectuelle et une lucidité de réflexion critique, que ce qu'elle conçoit est d'ordre intentionnel. Là, elle conçoit l'intentionnel et elle a conscience de l'intentionnel. L'intentionnel, c'est ce qui est totalement relatif à la réalité. Et que l'intentionnel n'est pas ce qui est d'ultime et dernier. Ce n'est qu'un moyen. L'intention, dépasser l'intentionnalité, et ça se fait selon la vie même de l'intention. Il n'y a pas de problème philosophique. Le dépassement de l'intentionnalité se fait selon la vie même de l'intelligence. Alors, quand l'intelligence ne vit plus, il y a un problème. Mais dans la vie de l'intelligence, l'intentionnalité est dépassée tout de suite. Oui, c'est comme celui qui aime, il sait qu'il aime une personne. Mais quand il est malade, il se demande s'il aime une personne. Il se demande s'il ne s'aime pas lui-même. Alors il s'enferme dans l'intentionnalité de l'amour. Ça existe. Psychologiquement, c'est très bien. On peut très bien s'enfermer dans l'intentionnalité de l'amour. S'enfermer dans l'intentionnalité de l'amour, c'est être heureux d'aimer, mais on ne sait pas qui on aime. On est heureux d'aimer, mais on ne sait pas qui on aime. Parce qu'on ne sait pas si on a contact avec l'autre. C'est très curieux comme position, c'est très intéressant de voir ça. Ça, psychologiquement, c'est connu. Parce qu'on sait très bien qu'on peut très bien, dans une attitude réflexive, s'enfermer dans l'intentionnalité même de l'amour, Et quand on s'enferme dans l'intentionnalité de l'amour, l'amour, par le fait même, n'a plus sa source. D'où vient l'amour? Il vient du bien qui a suscité en moi cet amour. D'où vient l'intentionnalité de l'intelligence? Il vient de la réalité qui a suscité en moi ce concept. Et donc, dans le jugement d'existence, je comprends comment la réalité mesure le concept que j'ai formé au-dedans de moi-même. Et je comprends à ce moment-là que la forme intentionnelle est toute relative au réel. Et je crois que seul le jugement d'existence le montre parfaitement. C'est le jugement d'existence qui peut seul me faire comprendre ça. Parce qu'un autre jugement, si je prenais, on le verra, parce que c'est important, un autre jugement, par exemple, le jugement qui me permet de saisir les principes, ne me donne pas du tout le même réalisme. Un jugement qui porte sur les possibles ne me donne absolument pas le même réalisme. Je suis enfermé dans les possibles. Je suis enfermé dans une hypothèse. Et alors, dans l'hypothèse, je reste dans l'intentionnalité. Mais la critique doit montrer que le jugement premier, c'est bien le jugement d'existence par où je suis capable de saisir l'autre et l'autre devient ma mesure. Et alors à ce moment-là, l'intentionnalité du concept est toute relativisée à la réalité.